Radio Cité Genève.
Chers amis, chers amis, construisons notre avenir. 17 objectifs pendant 17 semaines afin de vous présenter dans notre région 17 exemples de bonnes pratiques au service de l'agenda 2030. Certaines des organisations que nous avons interrogées sont déjà bien connues. D'autres travaillent en catimini pour le bien de la communauté humaine. Toutes ont des propositions à nous faire afin d'évoluer ensemble vers un monde meilleur. Merci d'exister.
Non à la violence, pas de racisme. Des copains pour jouer ou des soldats pour tuer. Ne jamais perdre l'espoir que les ennemis deviennent des amis.
Merci aux enfants de l'école de la découverte qui, en 1999 déjà, avaient composé les paroles de cette chanson lors d'un grand repas de solidarité. C'était la première édition de The Meal à Genève. Chers amis auditeurs, aujourd'hui nous sommes sur l'objectif numéro 11, l'objectif du développement durable. Et dans le cadre donc des villes et communautés durables, j'ai le plaisir d'accueillir au micro le maire de Meyrin qui se nomme Pierre-Alain Tchoudi. Meyrin, c'est personnellement un endroit qui me touche énormément. J'ai fait mes études quand j'étais gamin au CERN. Et puis, à l'époque, c'était un petit village qui était traversé. Il y avait, je me rappelle, un magasin de motos sur la place du village. Et puis quelques bars qui étaient pas très jolis à l'époque. Je me demandais si ça deviendrait une cité dortoir, Meyrin. Mais en fait, quand j'y reviens, parce que j'y viens fréquemment, parce qu'il y a des activités culturelles, monsieur le maire nous en parlera tout à l'heure, il y a énormément de choses qui se passent ici et je vois que ça bouge. À mon sens, c'est un petit peu comme un cadéléoscope, Meyrin. C'est-à-dire, on le bouge comme on le bouge, il y a quelque chose de beau qui se passe, quelque chose de dynamique. Donc, je vais céder la parole à Pierre-Alain Tchoudi. En deux mots, de quelle façon il y a ce grand écart qui est fait entre ce que j'ai vécu à l'époque et puis de ce qui se passe maintenant? Je pense que vous avez autour de vous une équipe pluridisciplinaire incroyable parce qu'il se passe énormément de choses tellement différentes ici. D'abord, bonjour.
Bonjour. Merci pour cette belle éloge de notre ville de Meyrin. Moi-même, je n'ai pas connu l'époque que vous avez mentionnée puisque je suis un migrant. Je viens de la ville de Bâle et donc je suis arrivé dans les années 80 où effectivement la cité Meyrin-Cité était déjà construite. C'est la première cité satellite de Suisse. Et cette cité satellite, donc, des années 60 du 20e siècle, c'est en même temps l'essor de la télévision, mais surtout aussi l'essor de la voiture avec la construction de l'autoroute dans le cadre de l'exposition nationale de 64. Et donc, effectivement, vous avez raison, on pouvait craindre que cette cité satellite devienne clairement une cité dortoir, puisque il y avait notamment très peu de commerce, il n'y avait pas d'infrastructure, il y avait des généreux parkings pour prendre sa voiture pour aller ailleurs, pour ses loisirs, pour son travail. Et donc, il y avait vraiment tous les ingrédients d'une future cité dortoir. Les habitants qui sont venus, qui étaient majoritairement des étrangers d'ailleurs, étrangers au canton de Genève, il y avait des Suisses allemands, mais il y avait aussi beaucoup d'étrangers dans la cité, il y avait une majorité de non-Suisses. Et ces gens-là ont souhaité s'investir précisément pour que ça ne devienne pas une cité dortoir. Et donc, dans l'ADN mérinois qui s'est constitué à ce moment-là, cette volonté de s'engager, de participer et d'en faire autre chose qu'une cité dortoir. Et c'est donc sous cette impulsion-là aussi que progressivement, on a réalisé des infrastructures, d'abord de généreuses installations sportives, patinoires, piscines, tennis, etc. Et puis, stade de foot, pardon. Et puis ensuite aussi, une maison de la culture qui est le théâtre Forum, mais qui est beaucoup plus qu'un théâtre puisqu'on y rencontre une bibliothèque municipale, des salles d'exposition, un lieu de concert pour la musique électronique jeune. Donc, on a tous ces éléments qui se sont constitués à fur et à mesure. Et puis, maintenant, au XXIe siècle, une nouvelle nécessité de loger nos enfants et nos petits-enfants, comme on dit volontiers, et la nécessité donc aussi de construire un nouveau quartier. Mais ce nouveau quartier va reprendre un élément de la cité, à savoir cette participation citoyenne, cet engagement citoyen, mais va s'adapter effectivement aux objectifs du développement durable. C'est-à-dire que c'est un éco-quartier qui se préoccupe de l'ensemble des questions du développement durable, à la fois évidemment la question écologique, en se préoccupant de l'eau, en se préoccupant donc d'infiltrer l'eau de pluie, de créer des noues paysagères, de récupérer l'eau de pluie aussi. Et puis, énergétique, on a un système énergétique qui est extrêmement développé pour l'ensemble du quartier, avec des panneaux solaires sur l'ensemble des immeubles. C'est une obligation. Le quartier est labellisé Minergie A. Certains immeubles ont encore d'autres labellisations Minergie, Eco Plus, etc. Alors, ce qui est important peut-être de souligner, c'est que dans le cadre de la participation citoyenne, les gens se sont posés des questions. Comment faire que ce quartier ne soit pas juste labellisé, mais vive réellement les objectifs du développement durable? Et notamment, c'est dans ces discussions-là qu'est apparue la question de l'alimentation. Extrêmement importante, puisque un bon tiers, certains disent même plus, des émissions de CO2 sont dues au système alimentaire industriel actuel, aussi bien dans la production, mais aussi dans le cadre des transports, et ont développé un concept qui est un peu un concept fédérateur de cet écoquartier qui s'appelle l'écoquartier des Vergers. C'est un concept fédérateur qui s'intitule « De la fourche à la fourchette », avec ce projet de créer des liens entre les mangeurs, c'est-à-dire les habitants du quartier, mais de la ville, hein, parce que ça dépasse très clairement le quartier, ça irrigue, ça déborde sur la ville, de créer des liens entre les consommateurs, les mangeurs et les producteurs locaux. Producteurs locaux de la région, et puis aussi producteurs locaux de Mérin même, en installant dans le quartier même un projet d'agriculture urbaine. Et ensuite, créer aussi dans le cadre des rez-de-chaussée des immeubles, des ateliers de transformation, boulanger, boucher, etc. Et puis finalement, de créer un magasin qui s'appelle le supermarché participatif Paysan, qui est une sorte de coopérative dans laquelle on retrouve les paysans et on retrouve aussi les consommateurs qui participent, qui créent des liens, qui comprennent. Donc on a la proximité, on a la traçabilité, on a toute la traçabilité depuis le moment de la production agricole jusqu'au moment où c'est consommé. Et puis on a aussi dans le quartier des liens avec les restaurants qui peuvent récupérer, adapter les menus qu'ils proposent, notamment aux invendus, de manière à réduire le gaspillage alimentaire, qui est aussi un facteur important. Donc on a là une réelle économie circulaire et des réels circuits courts qui font aussi réfléchir à d'autres éléments.
Alors, je vous interromps deux secondes parce que j'étais déçu en bien, comme on dit dans le canton d'à côté. J'étais faire mes courses l'autre jour dans un petit magasin bio, j'ai plus le nom en tête, et j'ai pu payer en léman, monnaie léman. Un mode de fonctionnement qui démarre à Mérin de façon plus énergétique que juste dans ce petit magasin.
Alors, c'est un projet, mais c'est encore un projet parce qu'effectivement, il faut qu'on puisse avoir des liens et réellement créer ce circuit. Je pense que préalablement à l'introduction du léman, qui est effectivement un objectif, il est important qu'on ne joue pas au magasin, c'est-à-dire que j'aille pas, moi, à la banque du léman chercher de l'argent, je paye dans le magasin, puis il retourne à la banque pour le transformer en francs suisses ou en euros. Donc là, il faut créer ces liens. Et je pense qu'automatiquement, quand on aura créé ces liens, introduire le léman se fera beaucoup plus naturellement que ce n'est encore le cas aujourd'hui.
On a parlé de cette participation citoyenne qui est dans l'ADN de Mérin. C'est quelque chose, donc à l'époque, je n'en étais pas rendu compte, mais vous faites bien de le souligner. Cette dimension internationale aussi, parce que, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, il y avait une majorité de gens qui ne venaient pas de Suisse, qui habitaient ici. Je pense que c'est rendu en partie au CERN, qui devait quand même amener passablement de gens de l'étranger.
C'est dû au CERN, effectivement, et aussi au développement d'autres organisations internationales. Alors, il est tout à fait vrai qu'à cette époque, donc dans les années 60-70 du siècle dernier, il y a eu énormément de fonctionnaires et de chercheurs physiciens du CERN qui se sont évidemment installés à proximité. Et très souvent, il n'y avait qu'un des deux conjoints qui travaillait. Et donc, l'autre avait énormément de temps libre. Mais c'était aussi des personnes qui souhaitaient s'investir, qui voulaient se réaliser autrement que simplement faire le ménage.
D'un côté, j'ai fait mes courses dans un petit magasin bio où on peut payer en léman. Et puis d'autre part, vous avez une zone industrielle. Je relève entre autres la présence de l'industrie horlogère de luxe et un tas d'autres activités. Quel rapport vous avez avec ces entreprises-là?
Alors, depuis 2011-2012, on s'y intéresse réellement. On s'y intéresse réellement, non simplement comme contribuable, mais aussi parce qu'on a réfléchi au fait que si on crée des quartiers d'habitation durables, il fallait également créer des quartiers industriels durables. Et donc, les gens y passaient en tout cas 8 heures par jour, en plus réveillés. Hein, donc, c'est une grande partie de leur vie. Et que donc, ils méritaient aussi, non seulement pour l'avenir de la planète, mais aussi pour leur qualité de vie et de travail, qu'on s'en préoccupe, qu'on crée des infrastructures, qu'on y développe notamment des crèches, qu'on mutualise aussi le stationnement, qu'en coordination avec l'État de Genève, on y développe les transports publics, et qu'on fasse ça de concert et aussi dans des démarches participatives avec les entrepreneurs. C'est pour ça qu'on a aussi créé chaque année le Mérin Economic Forum, dans lequel on rencontre les entrepreneurs, dans lequel on a ce mélange, qu'on retrouve d'ailleurs au WEF, n'est-ce pas, au World Economic Forum, c'est un peu sur ce modèle-là, mais évidemment à notre échelle, où on rencontre des entrepreneurs, des chercheurs universitaires, des politiques aussi, et qu'on crée ces liens et ces échanges dans le but de créer des quartiers industriels de qualité. Et puis, on constate aussi dans ces échanges et ces rencontres qu'il existe déjà des entrepreneurs qui se préoccupent réellement de l'avenir de la planète. D'ailleurs, la commune, si vous me permettez, la commune a obtenu le European Energy Award Gold, c'est-à-dire la plus haute distinction pour ses efforts en matière d'efficience et d'économie énergétique et de création d'énergie renouvelable. Et cette distinction, on l'a pas seulement obtenue parce que les autorités communales ont fait des efforts, mais également parce que des citoyens, des coopératives, mais aussi des entreprises font des efforts, et on a quelques beaux exemples dans la zone industrielle.
J'ai un exemple concret, c'est un petit peu le hasard de la vie, mais l'entreprise qui me prête ce micro et qui nous permet de partager ce message sur les ondes, c'est une radio qui est très proche des objectifs du développement durable, Radio Cité, et qui est donc sur votre territoire. Alors j'en profite pour les remercier, parce que ce que vous venez de dire, c'est l'exemple naturel d'effectivement de cette complicité naissante entre les entreprises, entre autres de la zone industrielle, et les objectifs du développement durable, avec une prise de conscience efficace.
Je confirme, parce qu'effectivement, cette radio nous invite assez souvent, je ne parle pas seulement des autorités, mais invite aussi des citoyens investis dans ces objectifs-là à leur micro.
Je suis passé ce matin, j'habite Versoix, et puis je suis arrivé de très bonne heure et j'ai vu ce qui, je crois, s'appelle le lac des Vernes. J'ai posé ma voiture pas loin, j'étais un petit moment. J'étais dans une symphonie de nature qui était, à mon sens, totalement hors norme vis-à-vis de ce qu'on peut s'attendre quand on regarde Mérin de loin. D'un seul coup, on est dans un autre paysage, dans une autre dimension. C'est venu comment, cette idée?
Alors, c'est venu d'une loi fédérale qui exige, à juste titre, qu'on sépare les eaux usées des eaux claires. Mérin avait un réseau unitaire, donc ce qui signifie que toutes les eaux usées, les eaux claires, eaux de pluie, allaient dans la station d'épuration des eaux, et donc celle-ci débordait assez souvent lors de fortes précipitations. Et donc, les eaux allaient directement, quand elles débordaient, dans le Rhône, ce qui était extrêmement polluant. Donc, on a créé ce réseau séparatif au fil du temps, qui nécessitait qu'en cas de forte crue, on crée un bassin de rétention, pour que pas toute cette eau aille dans notre Nan, qui est le Nan d'Avril, et provoque des érosions. Et donc, on a décidé que ce bassin de rétention, plutôt que de faire un bassin enterré ou une piscine, en quelque sorte, on en ferait un lac avec une forte qualité aussi de préservation de la biodiversité.
Alors, monsieur le maire, nous avons ensemble fait un joli tour de votre commune, qui effectivement est des plus dynamiques. Je vous remercie du fond du cœur de bien avoir voulu nous consacrer un petit peu de temps. Donc, un grand merci. Au revoir.